Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Un calme précaire règne ce lundi à Uvira après les agitations de la veille, caractérisées par des pillages et des tirs à balles réelles. La ville est tenue présentement par les Wazalendo auxquels se joignent les FARDC qui proviennent progressivement des collines surplombant Uvira. Le président Félix-Antoine Tshisekedi participe de ce lundi à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial. Selon la porte-parole du chef de l'État, la RDC se présente à Davos comme un pays solution positionné au cœur des grands enjeux mondiaux. À l'occasion du 65e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, survenu le 17 janvier 1961, les réflexions autour de son héritage continuent à être évoquées. Quel legs le héros national laisse-t-il aux générations actuelles et futures? Pour en parler, nous recevons Madame Yema Lumumba, petite fille de l'illustre disparu et chargée de communication de la Fondation Lumumba. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Uvira s'est réveillé dans le calme ce lundi après une journée marquée la veille par des pillages et des tirs sporadiques. Selon plusieurs sources, la ville est désormais sous le contrôle des Wazalendo, rejoint progressivement par les FARDC qui descendent des collines environnantes. Les mêmes sources indiquent que les troupes de l'AFC M23 retirées d'Uvira la veille ont établi leur quartier général à Kabunambo, à moins d'un kilomètre au nord du centre-ville. Les autorités multiplient les appels, invitant la population à éviter toute chasse à l'homme et à demeurer vigilante. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Si le retour des FARDC et des Wazalendo à Uvira est perçu par une partie de la population comme un signe encourageant de stabilisation dans cette zone du Sud Kivu, la proximité des positions rebelles continue de susciter des inquiétudes chez d'autres habitants. Ce lundi, quelques activités ont timidement repris malgré les stigmates des pillages qui ont touché les services de l'État, les opérateurs économiques et de nombreux particuliers. Un habitant témoigne.
Ce matin, ça va déjà, c'est calme. C'est hier où il y avait beaucoup de tirs de balles, mais ce matin vraiment la situation est calme, les gens commencent à se créer librement, tout le monde est content. Pour les activités scolaires, demain nous serons en réunion du comité sous-provincial. Nous allons en tout cas sensibiliser les parents pour les activités pour se reprendre.
Cependant, des incidents isolés sont encore signalés dans certaines communes d'Uvira. Des habitants affirment que des troupes de l'AFC M23 sont visibles en grand nombre dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi, notamment à Luvungi, Bwegera, Sangé et Kiliba Onz. D'autres groupes seraient également présents à Kamanyola dans les hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira.
En Ituri, pendant ces temps, les casques bleus de la MONUSCO sont mobilisés depuis la semaine dernière pour protéger les civils après des combats entre les FARDC et la milice Convention pour la Révolution Populaire affiliée à Thomas Lubanga, à Boulé et dans d'autres zones du territoire de Djougou. La MONUSCO a établi une position près du site de déplacés de Loda à proximité des Fataki et a renforcé les patrouilles sur plusieurs axes routiers et dans certaines localités dans le but de prévenir et contenir les attaques de ces groupes armés. Les détails avec vous, Isaac Remoyopé.
Les casques bleus de la MONUSCO sont en alerte maximale depuis la semaine dernière, notamment à Boulé, Fataki, Djaïba et Loda, où les menaces de la milice CRPC sont intensifiées. Ils mènent des patrouilles robustes du jour comme de nuit afin de protéger les civils en fuite lors des combats opposant les FARDC à cette milice, principalement vers Boulé, mais aussi le long de certains axes routiers, dont Kassali, Loda, emprêtés par des populations en déplacement. Selon la mission onusienne, certains civils ont trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO avant d'être évacués vers Bounia et Fataki. Des blessés ont également reçu les premiers soins avant leur transfert vers d'autres structures médicales dans la zone. À Fataki, à environ 85 km au nord de Bounia dans le territoire de Djougou, des miliciens de la CRP ont attaqué le week-end dernier une position des FARDC. Un civil a été tué et un autre blessé. Face à cette menace, les casques bleus ont établi une position près des sites de déplacés de Loda pour protéger les personnes vulnérables et bloquer la progression des miliciens. Des patrouilles et de la MONUSCO ont également sécurisé les axes Fataki Loda et Fataki Sandoukou. Ces interventions ont permis d'appuyer les FARDC sur le terrain et de sauver de nombreuses vies humaines dans cette entité territoriale où les menaces de la CRP persistent. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans les mêmes registres, la situation reste tendue ce lundi dans les groupements de Kisimba et Bachali Mokoto, à cheval entre les territoires de Walikale et de Massis au Nord Kivu. Selon plusieurs notables locaux, au moins 7 civils ont été tués tôt ce matin dans le village Katobo, localité d'Ioula, en groupement Kisimba. Les victimes auraient été ciblées lors d'une incursion attribuée aux combattants du mouvement AFC M23, indiquent les mêmes sources. Parallèlement, un climat de forte volatilité persiste dans les villages voisins de Niabikeri, en territoire de Masisi. Depuis samedi et jusqu'à la mi-journée du dimanche, la zone a été le théâtre des violents affrontements opposant l'AFC M23 à une coalition de groupes Wazalendo. Nos sources rapportent que les cultes dominicaux ainsi que plusieurs activités socio-économiques ont été totalement paralysées en raison d'intenses bombardements sur toutes les collines entourant le village. Rendons-nous au Congo central où la situation humanitaire est jugée critique au poste frontalier de Zulumbundu et de Kimpama dans les secteurs de Balari, territoire de Luozi. Plus de 1300 Congolais de la RDC y sont arrivés après avoir fui la localité de Mindouli en République du Congo où les affrontements opposent depuis le 11 janvier des éléments de la garde républicaine brazzavilloise aux miliciens Ninja. Selon l'administrateur du territoire intérimaire de Luozi, qui s'est exprimé à Radio Kapi, ces personnes retournées en RDC, parmi lesquelles des femmes enceintes, des enfants et des personnes vivant avec un handicap, ne disposent d'aucun abri et manquent de tout. Célestin Luciama redoute l'apparition d'épidémies en raison de la promiscuité dans laquelle vivent des familles déplacées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Dans ces déplacements, on a compté plus de 80 personnes originaires du Congo Brazza, mais qui sont vite rentrées au Congo sur appel de leur sous-préfet. Donc, ils sont restés sur le terrain presque 1300 et quelques personnes. Ceux-là sont des déplacés qui sont revenus dans leur pays d'origine. Seulement, ils sont entassés à la frontière. Ils ne veulent pas se rendre dans leur village d'origine. Ils sont à la frontière où il y a un problème. Logement se pose, nutrition se pose, les problèmes sanitaires, il n'y a pas de station hygiénique. L'eau potable pose problème. Nous avons essayé de les caserner dans une école à Mimpala, dans les villages environnants, là où on trouverait des maisons inhabitées. On a logé quelques familles là-bas, mais bon, ça ne suffit pas. Donc, la situation est critique sur le terrain. Il y a problème d'urgence d'intervention pour résoudre ces problèmes de logement. Ce que nous craignons, c'est qu'il y ait présentes épidémies dans les jours qui viennent. Là-bas, à Mindouli, la situation, le calme reste précaire. Les gens se regardent en chef de faïence parce que jusqu'hier, nous avons pu réceptionner encore 62 personnes.
Et puis, en Mbujimayi, au Kasaï oriental, la montée de l'insécurité urbaine inquiète les habitants de la capitale diamantifère. Dans les quartiers de l'ouest de la commune de Bipemba, notamment à Kabwacha et Kakilenga, des bandits connus sous le nom de Boshières imposent leur loi. Ce sont des voleurs hommes et femmes qui opèrent par ruse en inventant des scénarios pour détourner l'attention de leurs victimes avant de s'emparer de leurs biens, souvent à leur insu. Ce groupe devenu célèbre multiplie les actes de violence et de délinquance perturbant la vie quotidienne des habitants. Esther Ndalafina décrit pour nous ce phénomène.
La présence de ces individus appelés Boshières est particulièrement signalée aux abords des banques commerciales, des comptoirs de diamants et des marchés. Certains se font passer pour des étrangers cherchant leur chemin, profitant de la distraction pour soutirer de l'argent ou arracher des sacs. Leur cible ne se limite pas seulement aux piétons, ils s'attaquent également aux motocyclistes. Selon les services de sécurité, après leur forfait, ces auteurs de vol par ruse regagnent leur quartier, notamment Kabwa, Kankelenga et les environs du marché Bakwansumpi. Pour mieux dissimuler leurs intentions, hommes et femmes soignent leur apparence. Lotion éclaircissante à base d'hydroquinone, cheveux teintés, vêtements propres. Cette mise en scène leur permet de gagner plus facilement la confiance de leurs victimes. Les Boshières défient ouvertement la police et se comportent comme s'ils étaient intouchables. Un commandant du sous-sept de la police de Bipemba affirme avoir été menacé physiquement et avoir reçu des messages anonymes après avoir tenté d'organiser leur arrestation. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le ministre des Droits Humains appelle les responsables religieux à s'impliquer davantage pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Samuel Mbemba a lancé cet appel ce dimanche au cours d'un échange organisé avec la Corporation des Pasteurs de la ville-province de Kinshasa. Ces leaders religieux ont exprimé leur engagement à contribuer par leurs prières à la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour le ministre des Droits Humains, cette rencontre a consisté à partager un moment de joie et de fraternité avec ses pairs tout en s'alignant derrière le chef de l'État dans le processus de restauration de la paix dans l'Est du pays. Dans son allocution, Samuel Mbemba a exhorté ses hôtes à soutenir le président de la République qui fait du retour de la paix à travers le pays une de ses priorités majeures. À cette occasion, ses membres du gouvernement a dénoncé la malice de Kigali qui par la terreur cherche à exterminer les populations locales de certains territoires du pays afin d'y installer ses ressortissants dans le but de s'approprier ces terres congolaises. Samuel Mbemba Kabuya.
Le Rwanda, par l'entremise de ses supplétifs de l'AFC M23, a pris le contrôle de deux de nos provinces. Ses forces importent des ressortissants rwandais pour les installer dans les territoires occupés après avoir terrorisé les populations locales. L'objectif est clair, qu'après des années réclamer ces terres alors qu'en tant que serviteurs de l'Éternel et citoyens conscients, nous devons en être pleinement informés.
Les serviteurs de Dieu présents à cette rencontre ont saisi cette opportunité pour exprimer leur engagement à soutenir les pays en cette période difficile. Un moment intense de prière et d'intercession a ponctué cette rencontre.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, participe ce lundi à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial prévue du 19 au 23 janvier 2026 sous le thème « Un esprit de dialogue ». Selon la porte-parole du chef de l'État, la RDC se présente à Davos comme un pays solution positionné au cœur des grands enjeux mondiaux, pays solution pour le climat grâce à la puissance de ses forêts et de ses tourbières, pays solution pour la transition énergétique en raison de ses minerais critiques et de son potentiel hydroélectrique unique. Pays solution enfin pour son capital humain, porté par une jeunesse dynamique représentant près de 70% de la population. On écoute les explications de Tina Salama au micro d'Alain Irung.
Le président Félix Tshisekedi, en tout cas l'un des invités d'honneur ou de marque hein, pour cette session ici à Davos, qu'il faut le rappeler, compte cette année une présence diplomatique impressionnante. Jamais, hein, comme ils disent eux-mêmes ici, une édition n'avait réuni autant de chefs d'État et de gouvernement. Près de 800 à 1000 chefs d'entreprise et 8000 participants en tout cas ont confirmé leur présence. Donc c'est un endroit idéal pour nous RDC, pour non seulement réseauter, hein, mais également nous inscrire, comme nous l'avions toujours dit, dans un esprit des partenariat stratégique. Pour autant, ça, on tient à le souligner, que notre souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale soient garantis. Donc, le président de la République se présente ici à Davos avec des cartes en main, des solutions, on va dire, à offrir au monde pour le climat, par exemple, hein, par la puissance, par exemple, de nos forêts, nos tourbières, la transformation énergétique, par et non des moindres, hein, nos minerais critiques. Donc nous offrons des partenariats gagnant-gagnant dans le respect de nos intérêts stratégiques et qui contribuent à l'instauration d'une paix durable.
Dans la province du Maniema, l'ONG Les Amis du professeur Ngoubo Selemani a porté une assistance en vivres aux malades de l'hôpital général de référence de Kindu. C'était à concerner les patients des services de pédiatrie, de médecine interne, hommes et femmes, ainsi que de chirurgie. Chaque malade présent a reçu une quantité importante de riz et de haricots destinés à les soutenir en cette période difficile. Ce geste humanitaire a été salué par les responsables de l'hôpital et par les bénéficiaires eux-mêmes, qui souhaite voir ce type d'initiative se répéter compte tenu des besoins persistants. Florence Kizalunga, reportage.
L'hôpital n'est pas un lien de réjouissance. Quelles que soient les circonstances, les malades expriment toujours des besoins essentiels. L'assistance en vivres apportée par cette association constitue ainsi un véritable réconfort.
Professeur Ngoumbou, que Dieu vous bénisse, nous avons reçu les dons à l'hôpital.
Nous avons reçu les dons, que Dieu vous bénisse et continuez. Je remercie le professeur
Face à la vulnérabilité de nombreux patients, le coordonnateur de l'association John Ngongo Lomango espère que cette aide pourra soulager les malades pendant un certain temps.
L'objectif était juste pour nous, selon la vision de notre leader, c'est venir assister les malades qui sont à l'hôpital dans des états critiques, surtout ceux qui manquent même à manger. Nous leur avons amené aujourd'hui que de vivre. Nous en sommes sûrs et certains qu'avec une quantité suffisante que nous avons amenée aujourd'hui, ça va leur servir pour manger durant quelques jours.
L'ONG, les amis du professeur Ngumbo Selemani, promet d'intensifier ses gestes caritatifs en faveur d'autres personnes vulnérables. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons sport avant d'aller plus loin. Un tournoi de basketball destiné à collecter des fonds en faveur des personnes démunies s'est tenu ce week-end à Beni à l'initiative de la coordination des clubs des vétérans de la discipline. L'événement a été organisé en collaboration avec le club actif de l'entente urbaine de basketball de la ville. Depuis vendredi, des vivres et des biens non alimentaires ont été rassemblés dans l'enceinte sportive afin de venir en aide en priorité aux veuves des militaires vivant dans la région de Beni. Pascal Kazindou, coordonnateur du club des vétérans de Beni et principal organisateur de l'activité, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons songé assister tant soit peu avec ce que nous aurons à récolter pendant ce tournoi, de la récolte de fonds, de vivres, des habits, d'argent qui pourra éventuellement aider tous les démunis qui viennent de Goma, surtout les femmes veuves de nos vaillants militaires de la FRDC qui ont combattu la guerre contre le M23. Alors on a songé à aller les assister dans leur camp et aussi voir aussi les orphelins qui ont perdu justement leurs parents, soit aussi leur maman. En fait, le message reste redonner un sourire à ces gens qui souffrent. En fait, il y a des gens qui dorment à la belle étoile ici à Beni, alors que nous avons deux maisons pour dormir. Alors on s'est dit, on doit quand même faire quelque chose. On ne doit pas laisser ça inaperçu. Donc on doit faire quelque chose, on est des jeunes. Et voilà pourquoi on a mobilisé un peu tout le monde pour nous venir en aide, pour nous assister avec ce qu'on peut avoir pour aider ces gens-là qui souffrent.
Actualité internationale.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'est exprimé dimanche 18 janvier 2026, un jour après que la commission électorale a annoncé sa victoire avec 71% de voix. Le chef de l'État au pouvoir depuis 40 ans rempile pour un septième mandat à l'âge de 81 ans. Devant les cadres de son parti, dans son fief de Rwakitura à l'ouest du pays, le président réélu a vanté la victoire de son parti.
L'invité.
À l'occasion du 65e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, survenu le 17 janvier 1961, les réflexions autour de son héritage continuent à être évoquées. Quel legs le héros national laisse-t-il aux générations actuelles et futures? Madame Yema Lumumba, petite fille de l'illustre disparu et chargée de communication de la Fondation Lumumba, s'est exprimée à ce sujet. Elle revient également sur le vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba en 2024 ainsi que sur l'apparition de Lumumba VA lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Yema Lumumba s'entretient avec Jody Daniel Kachama.
Madame Yema, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la mission et les objectifs de la Fondation Lumumba?
La Fondation Lumumba a pour mission principale l'information, l'éducation et la culture autour de la figure de Patrice Emery Lumumba. Nous faisons des manifestations, nous prenons en charge aussi des plateformes culturelles et avec différents événements, que ce soit de la démobilisation, formation et réinsertion des victimes de guerre, développement économique de petites activités ou encore organisation d'expositions ou de compétitions sportives.
Et depuis quand elle existe, cette fondation?
Cette fondation, elle existe depuis très longtemps. Elle a été créée par mon père, Roland Lumumba Okito, mais elle a été, je dirais, plus ou moins formalisée depuis 2003.
Selon vous, quel est l'héritage de Patrice Emery Lumumba?
Son héritage, il est très grand. Lors de son assassinat, il n'avait que 35 ans. C'est-à-dire qu'il était jeune, tout comme la majorité de la population congolaise, tout comme une grande partie de la population africaine. C'était un autodidacte et c'est quelqu'un qui avait le sens profond de la patrie et de la nation. Il s'agit d'avoir le sens de la patrie, le sens de la nation, et à son échelle, avec ses moyens, de faire un effort pour offrir un Congo encore plus beau, un Congo souverain, en s'assurant de transmettre l'histoire de son pays à ses enfants, ou parfois aussi de manière encore plus simple, en faisant la propreté devant chez soi, afin de s'assurer que le Congo soit littéralement beau.
Alors au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que Lumumba a incarnées ?
Une des valeurs qu'il a incarnées, une des choses aussi qui a fait de lui l'homme qu'il était, c'était un grand amour de l'éducation et de l'apprentissage. Je l'ai dit précédemment, il était autodidacte, à une époque où ce n'était pas forcément facile pour les personnes dites autochtones d'aller à l'école, de s'éduquer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il est important de se rappeler, parce que nous avons encore plus de moyens que ce qu'il n'avait. On a désormais Internet, on a accès à énormément de médias. Et avoir cette soif d'éducation, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir au monde et aussi d'approfondir nos pensées afin de les mettre en action.
Comment pouvons-nous aujourd'hui pérenniser cet héritage de Patrice Emery Lumumba et les transmettre aux générations présentes et futures ?
C'est une très bonne question pour pérenniser, c'est de faire vivre sa mémoire. Cette année, c'est l'année du centenaire de sa naissance. Nous avons eu les célébrations du 17 janvier qui marquaient les 65 ans de son assassinat. Mais ce n'est pas simplement pendant ce centenaire ou simplement le jour du 17 janvier qu'il est important de parler de son combat, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit au travers de différentes pièces de théâtre. Nous avons eu la chance d'en voir une, l'épopée Lumumba. Il s'agit aussi de consommer, je pense, des médias africains, que ce soit des livres, peut-être des influenceurs, peut-être des films. Et c'est dans toutes ces choses, au fur et à mesure, qu'en fait, on continue de faire passer le message.
Il semble qu'il y a, dans certains pays africains, il y a, je ne sais pas moi, des routes ou des universités qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba.
Énormément. Partout en Afrique, mais pas uniquement en Afrique. En Europe, en Asie, dans les Amériques. C'est très vrai que son combat, c'était un combat pour un Congo libre, mais pas uniquement. C'est un des pères du panafricanisme. Mais il était aussi très impliqué dans la libération de tous les peuples, que ce soit en Asie, en Amérique latine. Et de ce fait, il y a énormément de peuples à l'heure actuelle qui ont toujours cet amour de Patrice Emery Lumumba et du coup cet amour du Congo. Et nous avons des routes dédiées partout dans le monde.
Ici à Kinshasa, nous avons le boulevard Lumumba.
À Kinshasa, nous avons le boulevard Lumumba. Une fois, par exemple, j'étais aux Philippines, dans un village plutôt reculé des Philippines. Et j'ai croisé un enfant qui venait de naître, qu'on avait baptisé Lumumba, parce qu'il était nommé Lumumba après son grand-père, qui lui avait été appelé Lumumba, car né un 17 janvier.
Aux Philippines.
Aux Philippines, oui.
Ça, c'est magnifique. Parlons à présent des reliques de Lumumba, la dent de Lumumba qui a été ramenée dans notre pays. Nous savons que là où cette dent a été gardée, cet endroit a été vandalisé par des inciviques. Quelle est votre réaction par rapport à cela ?
Ma réaction initiale, ça écoute beaucoup de tristesse. La dépouille de mon grand-père, certaines personnes ont tenté de la spolier. Au-delà de ça, il faut savoir que la dent était déjà mise en sécurité elle-même. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons construit un mausolée à la mémoire d'un héros national. Et c'est ça qui m'emplit de tristesse, c'est de voir qu'il y ait eu ce manque de respect profond pour ce symbole de la patrie, pour un des pères de notre nation, un des pères de notre indépendance. J'ai confiance en la justice congolaise qui a fait son travail, qui a trouvé les coupables et qui continue de faire son travail.
Madame Yema Lumumba, nous vous disons merci et excellente journée.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
C'était donc notre invité Yema Lumumba, la petite fille de Patrice Emery Lumumba qui s'entretenait avec Jody Daniel Nkachama. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Irong Mouchinge et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.